globalement, la très grande majorité, en fait, c'est les deux tiers vont sortir de cet état dépressif complètement. Il y a un tiers qui vont rester avec des symptômes au long cours à lesquels ils devront faire attention. Mais les deux tiers vont s'en sortir. Le problème, c'est de générer cet espoir-là chez les gens pour lesquels ça ne colle pas.
Ce balado est présenté par la Société de services financiers Fonds FMOQ, qui vous rappelle que vivre en santé, ça commence maintenant. D'entrée de jeu, je veux vous remercier d'être autant à l'écoute de ce balado nommé « Santé sans rendez-vous » présenté par la Faculté de médecine de l'Université Laval. Plus on dévoile des épisodes et plus on réalise à quel point vous êtes au rendez-vous. Alors, un grand merci. Nouvel épisode, justement, d'un sujet qui nous touche de près, de loin, directement ou indirectement, les troubles dépressifs. Il faut en parler et je suis extrêmement contente aujourd'hui, justement, de recevoir les intervenants qui vont aborder le sujet avec nous. D'abord, Evans Villeneuve, qui est professeur agrégé au département de psychiatrie et de neurosciences de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Il est psychiatre spécialisé en évaluation et traitement des troubles sévères de la personnalité à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Et avant de se spécialiser en psychiatrie, il a pratiqué la médecine de famille pendant 10 ans dans la région de Trois-Rivières. Docteur Villeneuve, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cet épisode du balado Santé sans rendez-vous. Et elle est étudiante en médecine qui termine sa deuxième année d'externat. Elle veut se diriger vers la médecine familiale et elle accorde une grande importance à la santé mentale. Annabelle Papillon, bienvenue.
Bonjour.
La première question qu'on pose toujours à nos intervenants lors des différents épisodes de notre balado, c'est pourquoi avez-vous choisi cette spécialisation? Pourquoi, Dr Villeneuve, vous êtes-vous dirigé vers la psychiatrie?
Ben, le premier intérêt était la médecine de famille. Donc, je l'ai fait quand même de façon assez solide pendant 10 ans, mais j'ai toujours apprécié la relation comme outil. Outils thérapeutiques.
Oui.
Je me percevais que j'optais beaucoup vers les patients qui avaient ce type de problématique où la relation devenait majeure. Alors, après 10 ans, là, j'avais fait le tour d'un certain jardin et j'avais vraiment la piqûre pour la psychiatrie. Alors, voilà ce qui m'a amené là.
Et Annabelle, un grand intérêt pour la santé mentale. Pourquoi?
Je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, qui m'intrigue beaucoup. En plus que la prévalence des troubles de santé mentale est en augmentation, maintenant, je pense que ça représente quasiment pas loin de 50% des consultations en médecine familiale de ce que des collègues m'avaient dit. Puis, c'est tellement important à adresser parce que des fois, ça peut expliquer des mots physiques qu'autrement, on ne peut pas comprendre.
Exactement. Et ma question, puis considérez-vous que les troubles de santé mentale ne sont pas encore assez mis en lumière ou est-ce qu'on en parle assez des troubles de santé mentale de nos jours?
On en parle davantage.
Oui.
Est-ce qu'on en parle assez? Non. C'est quand même l'enfant pauvre, on pourrait dire, là, de la médecine. Là, c'est la psychiatrie, là, donc c'est les troubles de santé mentale. Donc, mais c'est vrai que ça s'améliore quand même.
Il y a un terme que je veux démystifier parce que la psychiatrie peut être mélangée avec la psychologie, la psychothérapie et tout ça. Moi, je veux savoir, c'est quoi un psychiatre exactement, Dr Villeneuve?
D'abord, un psychiatre, c'est un médecin.
Oui.
Donc, il y a une formation médicale. Donc, un premier 4 ans, donc comme la formation de base pour avant d'aller à des spécialités, soit celle de médecine familiale ou les autres spécialités. Après cette période-là, donc, on entre dans en étude pendant 5 ou 6 ans, uniquement en psychiatrie pour faire le tour des troubles de santé mentale. Et au bout de cela, bien, on a le titre de psychiatre. Un psychiatre, ça utilise, je pense que votre confusion, elle est compréhensible, les outils que l'on... Donc, comme on est des médecins, on explore aussi beaucoup la biologie. Mm-hmm. On est... La grande caractéristique des psychiatres aussi, c'est l'élaboration de diagnostics. Oui. On peut faire des diagnostics plus précis en lien avec la santé mentale, ce que certains corps professionnels ne peuvent pas faire. Donc, c'est un autre déterminant. C'est l'utilisation aussi de la médication. Donc, on est des médecins, spécialisés là-dedans. Donc, on a une expertise dans la prescription de médications et aussi d'outils plus spécialisés en lien avec les troubles de santé mentale. Alors, voilà. La confusion pour la psychothérapie et les approches psychosociales sont aussi utilisées par les psychiatres. On a une formation, on est reconnu, il faut faire ce qu'il faut durant notre formation, mais on est reconnu comme psychothérapeute également. C'est-à-dire, on doit être en formation continue pour maintenir notre titre de psychothérapeute, bien qu'on soit psychiatre.
La thématique d'aujourd'hui, ce sont les troubles dépressifs. Je pense que c'est la dépression qui revient le plus souvent quand on demande à quelqu'un un trouble dépressif. Pour toi, c'est quoi? Bon, la dépression. Mais la dépression n'est pas le seul, j'imagine, diagnostic, parce que je parle à un psychiatre, là. J'imagine que la dépression n'est pas le seul diagnostic qu'on peut faire d'un trouble dépressif. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans cette vaste gamme des troubles dépressifs?
D'abord, pas le seul diagnostic, effectivement. L'importance des diagnostics est majeure. Les gens sont souvent confondus entre l'anxiété avec des sentiments dépressifs. Il y a des émotions. Les émotions, on peut être déprimé sans avoir un état dépressif. Donc, l'idée, c'est de clarifier cette dimension-là. Mais lorsqu'on rentre dans un état dépressif, c'est quelque chose de très spécifique, c'est quand même peut être assez sévère et qui peut avoir des conséquences significatives. Mais il y a une atteinte majeure de beaucoup de fonctions. Donc, au niveau énergie, au niveau estime de soi, au niveau du trouble du sommeil, de l'appétit, de la capacité de travailler, de se concentrer avec une perte d'espoir, avec des idées suicidaires qui peuvent se joindre avec ça. Il peut même y avoir, dans les cas plus sévères, des symptômes de psychose. Donc, c'est un trouble très, très spécifique, mais très sévère. Effectivement, il y a plusieurs catégories on peut dire que c'est une grande catégorie, les troubles dépressifs. Ce que je viens de vous parler, c'est de la dépression majeure. Mais il y a les troubles dysphoriques les troubles dysphoriques prémenstruels, qui sont pas nécessairement juste les légers troubles habituels, mais ça peut être un trouble très sévère qui peut vraiment rendre dysfonctionnelle une femme pendant une semaine ou deux avec des symptômes très, très importants au niveau affectif et au niveau anxieux. Donc, ça fait partie de cette catégorie-là.
Est-ce que c'est en lien avec les hormones à ce moment-là?
C'est ça. C'est très... déjà, ça nous amène qu'est-ce qui peut amener des variations au niveau de l'humeur, au niveau qui peut donner des états dépressifs. La composante hormonale peut en être une. Pensons aux dépressions postpartum. Donc, les femmes qui font des dépressions après un accouchement. Il y a aussi les troubles qui sont induits. On appelle ça des dépressions, des troubles dépressifs induits. Les toxiques, donc les drogues peuvent induire des états dépressifs. Certains médicaments peuvent avoir comme effet secondaire d'induire des problèmes de ce côté-là. Oui. Des problèmes physiques aussi. Il y a des maladies qui comportent comme conséquence d'avoir des états dépressifs. On rencontre des états dépressifs après des infarctus, par exemple, des traumatismes crâniens. Quelqu'un qui a eu beaucoup de traumatismes crâniens, même si les traumatismes n'étaient pas sévères, il peut induire des états dépressifs. Un deuil. Mm-hmm. Un deuil. Un deuil, ça fait toujours mal, c'est toujours dur, on perd d'espoir, on a l'impression qu'on ne retrouvera jamais la joie de vivre après un deuil d'une personne proche. Mais il y en a pour lesquels c'est encore plus profond, où il va y avoir des chutes d'estime de soi avec des idées suicidaires et une perte de fonctionnement. Là, on va parler d'un état dépressif, on va parler d'un deuil compliqué à ce moment-là. Il y en a aussi qui sont... Parce qu'une dépression, c'est pas nécessairement... ça ne dure pas toute la vie, c'est en termes de mois. Mais il y a des gens qui sont déprimés beaucoup plus longtemps sur des termes d'années. Beaucoup moins déprimés, mais qui atteignent quand même un certain seuil. On va appeler ça des troubles dysthymiques. C'est assez répandu.
OK.
Okay? Puis il y a tous ceux qui ont des variations de l'humeur, mais on n'est pas dans la dépression. Des gens qui, par exemple, présentent des vulnérabilités au niveau de la personnalité, ils peuvent avoir des journées plus creuses. Mm-hmm. On appelle ça une chute dépressive, mais ce n'est pas un état dépressif.
Vous avez abordé tout à l'heure l'anxiété, vous avez vraiment fait la distinction que c'était deux choses complètement différentes. Mais vous avez, si j'ai bien compris, abordé le fait qu'il y avait un côté plus émotif à l'anxiété. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est moi qui a mal saisi, juste pour comprendre la différence vraiment entre les deux? Est-ce que les deux peuvent s'associer ou sont carrément distincts?
vous avez, votre intuition est excellente, mais on va le prendre des deux bouts.
Parfait.
Okay? Si on le prend du côté anxiété, l'anxiété, c'est un diagnostic très précis qui, généralement, les gens, les anxiétés, ça peut commencer assez tôt. Dès la puberté, les troubles anxieux commencent. Puis ça dure très longtemps, ça peut durer toute une vie. Pensons à des gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, ce qu'on appelle des TOC. Là.
Oui.
Ça fait partie des troubles anxieux. Il y a 8-10 types d'anxiété. Mais l'anxiété peut aussi amener à la longue, peut entraîner des états dépressifs.
Okay.
Le burn-out. Je ne sais pas si ça vous passait comme question en lien avec le burn-out. Le burn-out est un trouble anxieux avec des affects dépressifs.
Ah, OK.
OK? Fait que ça, c'est important. Mais ça peut devenir une dépression, une vraie dépression majeure avec affaissement de toutes les fonctions de la personne. Mais c'est un trouble anxieux. C'est quelqu'un qui essaye de s'adapter à quelque chose qui le bouleverse, soit un travail, soit des relations pénibles, soit des... l'émergence de phénomènes du passé. Bref, c'est ça. Alors, donc ça, c'est le versant anxieux.
Un trouble anxieux, s'il n'est pas traité, peut devenir un trouble dépressif.
Pas nécessairement. Mais certaines intensités de troubles anxieux peut dégénérer puis se compliquer d'un état dépressif. Oui. Par exemple, quelqu'un qui pourrait se consommer davantage de potes ou je sais pas quoi en lien avec l'anxiété parce qu'il gère mieux son anxiété comme ça, pourrait précipiter un état dépressif.
Mm-hmm.
Donc, c'est un peu ce genre de dimension-là. C'est pour ça que c'est important de bien faire le diagnostic. L'alcool qui est prise pour gérer de l'anxiété peut aussi être un bon inducteur d'alcool. C'est un dépresseur. Okay? Donc, c'est un anxiolytique au départ, désinhibant, à les 2-3 premières heures, mais 5-6 heures après, c'est un dépresseur. Oui. Donc, sur une base chronique, les gens peuvent faire des dépressions. Fait que ça, c'est le versant anxieux. Si on prend le versant dépressif par rapport à l'anxiété, c'est un symptôme. L'anxiété est un symptôme de la dépression. On dit que c'est à peu près 50 % des gens qui font un état dépressif vont présenter un diagnostic on appelle ça un diagnostic concomitant, donc de troubles anxieux,
okay.
D'anxiété. Voilà.
Les troubles dépressifs aujourd'hui sont abordés avec la tranche d'âge 18-35 ans parce que c'est à cette tranche d'âge-là qu'on s'adresse avec le balado santé sans rendez-vous. Quels sont les faits, les statistiques justement sur les troubles dépressifs? Parce que j'ai l'impression que cette tranche-là est particulièrement touchée par les troubles dépressifs. Et Annabelle, puisque vous faites partie de cette tranche d'âge-là, j'aimerais vous entendre justement, savoir personnellement, autour de vous, connaissez-vous des gens justement qui vivent, qui sont aux prises avec des troubles dépressifs?
En ce qui concerne les personnes autour de moi, c'est sûr que je suis beaucoup entourée de personnes en médecine dans la tranche d'âge 18-34 ans. Je pense que de ce que je vois le plus, c'est plus des troubles anxieux. Mais avec la pandémie, l'isolement, les difficultés dans le système de santé aussi, je pense qu'il y a eu une bonne recrudescence de troubles dépressifs aussi. Puis sinon, de ce que j'ai réfléchi, de ce que j'ai observé dans les dernières années, c'est beaucoup par rapport à la comparaison entre les personnes. Puis aussi avec les réseaux sociaux, je trouvais que c'était quelque chose qui a beaucoup d'influence sur la perception de soi-même, puis qui peut mener à plus de troubles dépressifs parce que c'est notre tranche d'âge qui en consomme beaucoup, là.
Et qu'est-ce qu'on... Je suis, bon, issue, oui, des médias sociaux, mais j'ai l'impression qu'à 23 ans, Annabelle, vous êtes plus à même de me parler. Quelle pression on se met par les médias sociaux, justement, jusqu'à développer des troubles anxieux, des troubles dépressifs? Qu'est-ce qui nous pèse par les médias sociaux à votre âge?
Bien, en fait, c'est beaucoup le fait que j'avais déjà lu un article qui disait que les sociétés les plus heureuses, c'était les sociétés où tout le monde était le plus égaux, qui avait le moins d'inéquité. Puis quand on réfléchit à ça, les réseaux sociaux, en nous montrant des choses parfaites, les plus beaux voyages, les gens plus riches, les personnes extra riches, ça ne fait que creuser l'inégalité que nous, on ressent, puis penser qu'on a donc bien moins de succès, moins d'argent, on a moins de projets, mm-hmm. que tout le monde est mieux que nous-mêmes, finalement. Ce qui n'est pas vrai, en passant. Donc, voilà.
Est-ce que personnellement, ça vous a déjà touché ou justement, les gens de votre entourage, avez-vous déjà eu à intervenir avec des amis ou des comparses de travail ou d'études, justement, là-dessus?
Bien, je pense que c'est quelque chose qui touche vraiment tout le monde, qui peut se manifester de diverses façons. Mm-hmm. Je pense, entre autres, aux troubles alimentaires chez les personnes de mon âge ou même dès le secondaire. Moi, comment je le perçois, c'est de bien gérer qu'est-ce que nous, on consomme personnellement comme médias sociaux. Là, c'est sûr que je fais attention au genre de page Instagram, par exemple, que je suis pour que ça soit des choses plus positives là, que de montrer tout le temps des modes de vie parfaits.
Et dans les statistiques qu'on voit sur la tranche d'âge 18-34, on voit qu'une immense prévalence chez les femmes. Pourquoi, selon vous, j'imagine que vous n'avez pas nécessairement une expertise à dire là-dessus, mais selon vous, pourquoi on voit une grande proportion de femmes par rapport aux hommes?
Je pense que, pour répondre en général, je pense qu'on a tendance à se mettre beaucoup de pression, puis également la société qui nous met de la pression, puis qui ne nous offre pas toujours les mêmes conditions que pour les personnes du genre masculin. Mais... C'est une excellente question.
Et c'est pour ça que je vais me retourner vers Dr. Villeneuve. Les faits, les statistiques, justement, concernant les troubles dépressifs chez les adultes de 18 à 34 ans, ça ressemble à quoi?
Bon. Le choix que vous avez fait des 18-34 est bon. Je sais pas si c'est intuitif ou si vous l'aviez trouvé, mais c'est le pic. Mm-hmm. Le pic des états dépressifs, c'est 15-24. Donc, dès le début, le milieu de l'adolescence jusqu'à le 24-25 ans, c'est là qu'on va retrouver la plus grosse prévalence, donc le nombre de cas qui arrivent soit dans une année ou à vie. C'est donc à cet âge-là. Et il y aura un autre pic chez les personnes âgées. Donc, c'est une dimension très importante, mm-hmm. Ce truc-là. En lien maintenant avec les statistiques oui. hommes-femmes, oui. effectivement, on dit en termes de, il y a plus de deux fois plus de femmes que d'hommes qui font des états dépressifs. D'autres statistiques sont intéressantes en lien avec ça, puis qui peut-être nous aident à comprendre la troisième partie de votre question. Si on regarde un des symptômes majeurs ou une des conséquences majeures d'un état dépressif, c'est le suicide.
Oui.
Okay? Il y a 4 fois plus d'hommes qui se suicident que de femmes globalement. Avec la problématique oui. suicidaire. Puis par contre, si on regarde, si je vous perds, vous me le dites.
Mais il y a une prévalence de femmes, mais il y a plus d'hommes qui se suicident.
Voilà. OK. Puis on peut dire que chez les troubles dépressifs, 50% des suicides, c'est quelqu'un qui était en état dépressif. Oui. Voyez-vous? Donc, oui. il y a beaucoup de monde. Donc, c'est un peu weird. Mais si on regarde le nombre de personnes qui font des tentatives de suicide sans se tuer, il y a plus de femmes. Bon. Est-ce qu'on peut tirer des conclusions? J'ai cherché, je m'attendais bien à cette question-là, j'ai cherché un peu dans la littérature, oui. qu'est-ce qu'on sait de façon pertinente en lien avec cette variation-là entre les hommes et les femmes? Il n'y a pas de réponse très claire. J'aurais aimé une réponse claire, mais on va... Tout à l'heure, on l'a vu, la dimension hormonale est oui. importante. Okay? On voit les dépressions postpartum, etc. Le syndrome dysphorique prémenstruel qui joue également. Ça, c'est une chose. Je pense que ce qu'Annabelle a apporté, c'est aussi fort pertinent. Je pense qu'on n'est pas égaux en lien dans la société pour se battre. Les femmes ont, je sais pas, 100 ans, 200 ans, 300 ans derrière à se battre aussi, à être concurrentielles.
Les femmes ont leurs droits, oui.
Ça, c'est une autre chose. Une des bonnes qualités des femmes, c'est qu'elles vont chercher des soins, donc vont aller consulter, donc vont se faire un diagnostic, ce qui n'est pas toujours le cas des hommes. Peut-être que des hommes, on apprend qu'ils sont malades une fois qu'ils ont fait la tentative de suicide. Donc, il y a aussi oui. ce biais-là qui peut jouer. Il y a des facteurs génétiques. Bon, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques qui défavorisent les femmes par rapport à des hommes? Il y a un lien qu'on pourrait faire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des facteurs de tempérament qui sont hérités des générations précédentes. On pourrait faire ce lien-là avec les difficultés qu'ont eues les femmes à travers oui. les siècles, qui peut se traduire par des éléments de tempérament aujourd'hui, mais qui ne sont pas irréversibles, mais qui sont à travailler, cette dimension-là. Du côté génétique, ce qui est dit, même si on cherche, hein, parce que les gens essaient de comprendre ce qui se passe du côté génétique, On a des pistes avec, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de sérotonine ou de noradrénaline. C'est les deux grands neurotransmetteurs, donc, ce qui fait fonctionner nos cellules. C'est les deux neurotransmetteurs qui ont été trouvés comme étant probablement les responsables des états dépressifs, même que toutes nos médications sont basées là-dessus. Sauf que c'est insuffisant pour parler d'un état dépressif. Il faut qu'il y ait un autre stresseur majeur dans l'environnement. Bon, est-ce que aussi les abus, parlons des abus, des abus sexuels, des abus aussi de négligence. Les femmes sont beaucoup plus victimes de cela, okay? Qui est un facteur aussi. Les personnes qui ont subi de la violence ou qui ont subi des grandes carences affectives ou qui ont subi des abus de cette nature-là, c'est un autre facteur qui fait que, si on regarde les facteurs de risque de faire un état dépressif, c'est la maltraitance et la violence et ces trucs-là. Bon, est-ce que tout ceci peut expliquer tout cela? Probablement pas. Peut-être qu'un jour, on va trouver quelque chose de plus brillant, mais je trouve que c'est déjà une bonne partie de l'explication.
Puis vous avez parlé un petit peu du développement, je pense, puis ça peut expliquer aussi un petit peu pourquoi les hommes vont avoir moins tendance à se confier. La manière qu'on les éduque, le fait que les petites filles, quand ils vont pleurer, on va aller les réconforter, mais des fois, les gars, ça va être « Ah, ben là, c'est pas grave, pleure pas pour ça », puis d'avoir cette attente-là que les petits garçons doivent grandir pour être forts, pour cacher leurs émotions aussi.
On peut même penser que, de par ce partage-là, les dépressions vont moins loin aussi là, que les femmes, cette propension-là. Tandis que les gars respirent avec leur truc, puis c'est vu comme de la faiblesse là, en lien avec ce que tu dis là.
On parlait des éléments déclencheurs tout à l'heure qui peuvent mener à des troubles dépressifs. Je pense que la tranche d'âge 18-34 est particulièrement atteinte par ces facteurs-là. On est aux études, on les termine, on entre dans le marché du travail aussi. Il y a des sphères professionnelles, des fois, qui sont un petit peu plus stressantes que d'autres. Bon, j'ai Annabelle devant moi qui est étudiante en médecine. J'imagine que c'est un domaine qui demande un certain contrôle du stress. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, là, mais ça aussi, j'imagine que ça doit influencer là, les troubles dépressifs très présents chez les gens 18-35. Puis là, je parle, parce que j'ai Annabelle devant moi, là, mais tous les corps de métier là, qui sont plus stressants ou...
Mais peut-être pas non plus, non, c'est très nourrissant aussi de s'embarquer dans de la complexité puis dans des stresseurs importants. Je pense que c'est lorsque des trucs sont confrontés, par exemple. Si quelqu'un a puis je pense que c'est très répandu chez les étudiants des universités, mais c'est une anxiété de performance.
Donc, oui.
En lien avec ça, la médecine, c'est adulé. Ce qu'on demande, c'est de la performance. Okay? Puis c'est un monde très féminin, d'ailleurs, maintenant. Hein? 75%, c'est des femmes. Mais c'est très, très peu, ou très, très peu, d'ailleurs, vont faire des états dépressifs, mais vont manifester de l'anxiété. Donc, les stresseurs ne sont pas uniquement l'explication, parce qu'à la limite, c'est même un tremplin, toute cette tension-là. Mais il y a des gens plus vulnérables qui ne tolèreront pas l'échec, qui vont avoir aussi un agenda caché, qui va ressurgir face à ces stressors. Mais ça peut être aussi, c'est l'âge où on quitte le milieu familial, il faut être autonome, puis des fois on n'est pas nécessairement préparé, on quitte notre région. Annabelle parlait des troubles des conduites alimentaires qui sont un autre témoin de ça.
Puis, on a parlé tout à l'heure du spectre des troubles dépressifs, mais je pense qu'on n'a pas abordé les troubles d'adaptation. C'est quelque chose qui est très... qui pourrait être très prévalent dans mon groupe d'âge, justement, parce que c'est le moment où il y a plein de changements dans nos vies. Puis, c'est un peu ça, les troubles d'adaptation, c'est avoir de la misère à s'adapter. Puis, comme vous avez dit, tout le monde a une fragilité différente, une propension différente à avoir ce genre de troubles-là.
Mais on va les mettre, les troubles d'adaptation, on les classe cependant dans les troubles anxieux. Burn-out, c'est un trouble d'adaptation. Si je voulais avoir un beau modèle de trouble d'adaptation, c'est-à-dire j'ai une situation, j'arrive pas à m'adapter avec ce que je suis, ce que je dois faire, quelles sont mes ambitions, avec mon environnement, puis là, je commence à fléchir, puis je suis plus capable de fonctionner, donc on me retire. Mais ça peut être très sévère, par contre. Hein? C'est pour ça qu'on peut penser que ça a une dimension ça atteint une intensité dépressive, mais retiré du stresseur, les gens vont mieux. Donc, c'est montrer que les capacités du cerveau n'ont pas été atteintes. C'est vraiment la gestion qui, là, ça a débordé le barrage de la personne à ce moment-là.
Je vais parler pour moi, puis je vais donner l'exemple du fait qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai donné naissance à ma fille. Avant d'être une mère, je ne comprenais pas ce qu'était qu'être une mère, OK? Je jugeais. Maintenant, je comprends. J'ai l'impression qu'avec la dépression, c'est la même maudite affaire, dans le sens que quelqu'un qui n'a jamais vécu un trouble dépressif ne comprendra absolument pas, puis va peut-être être même porté à juger les gens qui sont aux prises avec des troubles dépressifs. Puis c'est pour ça que je veux qu'on démystifie qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui vit un trouble dépressif. Qu'est-ce qui se passe biologiquement et aussi émotivement là, dans cette personne-là pour qu'on puisse mettre des mots puis essayer de comprendre, même si on ne l'a pas vécu, on ne le comprendra pas nécessairement au même titre que la personne qui le vit, mais au moins pouvoir avoir une piste là, de compréhension.
Bon, mettons que, je vais vous prendre comme exemple, mettons que vous avez la moitié moins de l'énergie que vous avez habituellement. Puis en plus, cognitivement, ça ne fonctionne pas du tout. Vous oubliez tout. Votre jugement est altéré parce que vous oubliez énormément de détails. À la limite même, vous avez de la misère à vous occuper de votre bébé parce que ça demande 12 étapes pour changer de couche puis comprendre les pleurs, mais vous n'y arrivez pas. Donc, c'est un autre handicap. En plus, l'estime de vous-même vient de planter. L'estime de vous-même, c'est un peu le disque dur par lequel vont passer toutes vos pensées. Mais là, tout ce que ça dit, c'est que vous ne valez rien, que vous êtes sans valeur puis vous n'en sortirez pas en plus. Puis vous avez toujours été comme ça, dans votre tête, puis vous allez être toujours comme ça. Donc, il y a une perte d'estime de soi, puis en plus, un désespoir, parce que ça n'a pas duré une journée, ça fait un mois que c'est comme ça. Je ne m'en sortirai jamais. En plus, avec l'énergie que vous avez, comme il est très bas, donc c'est un peu dans ce sens-là. La partie qui vous regarde. Bon, Joannie, tu as juste à faire ci. Ramasse-toi, pense à ça, sois plus raisonnable, tu t'es bonne. Bon, les gens ont une tendance à partir un peu de leur capacité cognitive, leur énergie, leur perception et tout ça pour juger de votre état.
Oui.
Mais ça ne marche pas.
Non, c'est ça.
Parce que ça, vous vous l'avez dit pas une fois, mille fois déjà. OK? Puis ça n'a pas marché, puis à la limite, ça vous a fait planter encore plus. Oui. Alors, c'est un peu ça. Donc, puis en plus, si jamais la personne a des idées suicidaires, ça fait le vide autour d'une... Bien sûr, le vide n'est pas là. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont être très concernés puis qui vont encadrer la personne, mais ça fait peur. Okay? Fait qu'il y a des gens qui vont se reculer puis vont avoir un petit regard un peu inhabituel, on va dire un peu comme ça par rapport à cela, mais ce n'est pas le même type de rapport que d'habitude, où il peut même y avoir même une infantilisation de la personne là-dedans. Donc, bref, c'est un peu ça.
Mais ce qu'il faut comprendre, dans le fond, là, c'est que... Je veux que vous me confirmiez ou vous me dites que c'est pas le cas, mais c'est qu'au-delà, même si la personne qui vit la dépression ou les troubles dépressifs, elle dirait probablement la même chose à la personne qui la regarde, si c'était cette personne-là, dans un état où son estime de soi, elle est bonne, ou dans un état, on va dire, plus normal, on va le dire comme ça. Mais là, c'est un débalancement au niveau du cerveau là, qui fait en sorte que même cette personne-là, elle ne se reconnaît plus. Est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'elle ait comme perdu le contrôle?
Exactement.
OK, c'est ça. C'est-à-dire
que vraiment tout l'aspect cognitif, même intellectuel, parce que dans le fond, elle n'arrive pas à être performante. Quand on mettait dans le titre le cri du cœur qu'on a, c'est un trouble désorganisant.
Oui.
Puis en plus, il n'est pas une journée, il n'est pas une semaine, il n'est pas un mois, c'est sur des mois.
Oui.
Okay? Fait qu'on ne relève pas, on est dans le trou pendant des mois. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de se mettre dans la peau de l'autre. Parce qu'en plus, si la personne décide d'aller voir son médecin puis que le médecin lui prescrit des médicaments, bon, là, il y a toute la vie de tout le monde par rapport à la prise de médicaments. Donc, il invalide la démarche ou encore, bref, si vous avez de la difficulté à prendre les médicaments, bien, c'est pas non plus une chose évidente pour vous. Puis en plus, il y a des fois, ça ne marche pas les premières semaines. C'est décourageant, tout ça. Puis les gens ne gêneront pas pour vous dire qu'ils le savaient, ça.
Puis ce qui est difficile aussi avec ce genre de conditions-là, c'est que c'est pas tangible, c'est pas quelque chose qu'on peut faire une radiographie puis dire « Ah, cette personne-là a une dépression ». Fait que pour les autres personnes, ça peut être super difficile à comprendre. Puis on n'a pas non plus de prise de sang pour dire que « Ah, ben finalement, avec le traitement, ça va mieux ». C'est vraiment, c'est la personne qui peut nous en informer, là.
Je veux qu'on parle des solutions, justement, médication, thérapie. Qu'est-ce qui s'offre aux personnes qui vivent les troubles dépressifs?
Mettons, effectivement, il y a toute une pharmacopée, là, donc toute une beaucoup de classes de médicaments qui sont recommandés pour tel type de dépression. Il y a vraiment ce qu'on appelle des médicaments de première intention, donc qu'on donne en phase aiguë, qui devraient fonctionner, parce que ça ne fonctionne pas toujours. Dépendant aussi, quand on parle d'un état dépressif, hein, il y a léger, modéré, sévère. Quand c'est léger, je pense qu'on peut... pas nécessairement obligé d'aller à la médication, mais quand on atteint les classes modérées à sévères, il faut aller vers la médication. Mais là, il faut trouver la bonne catégorie de médication. Des fois, ça prend 2 essais, des fois 3 essais. Puis un essai, bien, c'est 1 mois. C'est épouvantable, mais c'est 1 mois. Puis il faut, des fois, il faut rehausser la médication. Qui dit rehausser la médication dit effet secondaire aussi. Donc, c'est pas une période très facile, mais c'est pour ça que la relation est majeure là-dedans. Donc, la relation est majeure. Ce qui s'est montré le plus efficace dans la période aiguë de la dépression, qui est probablement les premiers 2 mois, c'est d'associer pharmaco, avec une médication qui est démontrée adéquate, avec une psychothérapie. Ces deux choses-là.
Il faut les mélanger quasiment essentiellement. Là.
Pour les dépressions modérées à sévères. Dépressions légères, la psychothérapie, excellente. Puis il y a de tout. Hein. Il y a une kyrielle de toutes d'approches de psychothérapie qui sont démontrées efficaces. Donc, il y en a plein, cette dimension-là. On peut en trouver au CLSC, on peut en trouver dans les bureaux privés des psychologues, on peut en trouver aussi dans les équipes de santé mentale des spécialistes, on peut en trouver dans les GMF. Les GMF, c'est un début, mais il faudrait que ça soit plus clair que ça. Il faut qu'il y ait des professionnels autour des GMF parce que c'est eux.
Oui.
C'est eux qui reçoivent. Oui. Okay? 80% des troubles affectifs, c'est eux qui les ont. Okay? Nous, les psychiatres, on a le 20%. Les plus sévères,
la référence plus loin, c'est ça.
16 ans. Mais donc, il ne faut pas que ce soit laissé. C'est ceux qui peuvent référer au CLSC, ce qui est bien, mais il faut les accompagner un peu plus.
Dans les groupes de médecine familiale, justement, comment on peut déceler, là, on a un patient qui se présente devant nous un bon matin, qui fait état de ses symptômes. Qu'est-ce qui peut nous faire dire qu'on s'en va vers des troubles dépressifs?
Bien, en fait, pour nous aider à établir un diagnostic, comme je disais, il n'y a pas d'imagerie, il n'y a pas de prise de sang, mais il existe un excellent outil sur lequel la majorité, sinon pas tous les psychiatres utilisent, qui est le DSM. Je ne sais pas si vous voulez nous en parler un petit peu.
Bien, t'es bien parti. Go!
Mais le DSM, ça regroupe les troubles mentaux les plus importants en fréquence, surtout si on a le petit manuel comme nous, on a à l'externat, par exemple. Donc, on va pouvoir aller étudier ça, les critères, puis c'est vraiment bien expliqué pour faire les différences. Puis souvent, c'est le même genre de symptômes qui reviennent pour les troubles dépressifs, là. C'est-à-dire le manque de sommeil ou, au contraire, avoir beaucoup, beaucoup de sommeil, le manque d'appétit ou manger beaucoup plus, l'énergie, on en a parlé tantôt, c'est des choses qui vont se rejoindre beaucoup. Puis il y a aussi une excellente section sur les différents troubles anxieux, il y a les troubles psychotiques aussi, ce qu'on voit moins en GMF parce qu'on est la première ligne, puis plus souvent, les troubles psychotiques, ça va se présenter à l'urgence. Oui.
Mais comme réflexe aussi, ce que font les médecins, puis c'est tout à fait adéquat, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est mal en point comme ça, on le revoit. Et si la semaine d'après ou 2 semaines après, ça va super bien, on n'était pas dans un état dépressif. Mais si on est encore plus creux, c'est un peu cette dimension-là. On peut être dans un moment dépressif, mais pas dans un état dépressif. Mais si ça dure, on s'en aperçoit. On discute avec cette personne-là, puis on voit bien que l'estime est au plancher. Ce qui est une bonne pratique également, c'est d'avoir une tierce personne. Est-ce que c'est la Joanie que vous connaissez? Oui. Le conjoint va dire, non, c'est pas ça. Joanie, c'est... Wow! Elle est capable d'enligner 3-4 émissions de radio, elle est énergique, elle ne perd pas une syllabe. C'est pas Joanie, ça, là. Donc, vous comprenez? C'est un peu... Donc, le témoin de la personne va donner une information fort pertinente par rapport à ça. Donc, l'histoire. Quand on fait une évaluation, on va voir un peu comment fonctionnait la personne, c'est quoi son histoire, si elle a déjà fait un état dépressif, parce que ça, c'est un excellent marqueur. Quelqu'un qui a déjà fait un état dépressif est plus à risque d'en faire un deuxième. Puis s'il en a fait deux, les risques d'en faire un troisième, c'est 90 %. Fait que c'est...
Quand même.
Fait qu'il faut savoir.
Oui.
Fait qu'on fait une histoire. Si votre mère a fait des états dépressifs, si après un accouchement, les femmes de la famille font des dépressions postpartum, ben c'est un bon indicateur que du côté hormonal, c'est les filles... le nom de famille, je ne l'ai pas, là.
Fortin.
Les filles, les Fortin, les filles, les femmes Fortin, ils sont fragiles, sont sensibles à cette dimension-là. Voyez-vous? Donc, c'est l'ensemble. Les critères, effectivement, c'est bien fait. Puis ils ont des cours aussi, il y a des formations. Durant la formation de médecine, il y a aussi des ateliers, oui. Des formations. Il y a des stages en psychiatrie également. Les externes vont faire généralement 2 à 3 stages d'un mois dans un milieu psychiatrique. Donc, ils sont bien outillés. Puis globalement, les GMF se s'outillent, oui. S'outillent ensemble. C'est pour ça que ça pourrait être intéressant qu'en plus, il y ait des psychologues aussi dans les bureaux.
Absolument. Puis, ce qui est difficile aussi en GMF comme médecin de famille, c'est surtout sur du sans-rendez-vous. En 10 minutes, OK, on peut évaluer, pas seulement utiliser les critères, le jugement clinique aussi, mais pour vraiment s'intéresser à l'histoire de la personne, puis commencer à avoir une petite approche de psychothérapie. En 15 minutes, on n'a pas le temps de faire ça. Fait que c'est sûr que rendu là, on a besoin d'alliés, on a besoin de psychologues, on n'a peut-être pas tout le temps besoin de référer en psychiatrie non plus. Mais ce qui est difficile aussi avec les psychologues, c'est que l'attente au public est excessivement longue, puis que c'est pas tout le monde qui a accès aux sous pour aller au privé. Fait que des fois, ça retombe souvent sur le médecin de famille parce que c'est un petit peu plus accessible. Même si déjà, on sait que c'est pas tout le monde qui a un médecin de famille ni non. Qui est affilié à un GMF. Donc, les personnes avec les troubles de santé mentale, finalement, ça peut être juste vraiment difficile d'obtenir les soins. Puis on les voit parfois à l'urgence parce qu'il n'y avait pas d'autre solution.
Je veux qu'on revienne sur la tierce personne, l'entourage d'une personne qui vit les troubles dépressifs. Juste avant, je veux qu'on revienne sur la psychothérapie. C'est quoi une psychothérapie? Comment ça marche, une psychothérapie? Est-ce qu'on se fait imposer un psychothérapeute? Est-ce qu'on peut le choisir? Ça dure combien de temps, une psychothérapie? C'est pour en avoir déjà vécu une, je veux vous entendre là-dessus. Là. Je veux que vous nous expliquiez ce que c'est parce que ça fait la différence, une psychothérapie.
Oui, ça fait la différence. Oui. L'idée, c'est qu'il y a différents types de psychothérapie. Il y a des psychothérapies plus brèves, plus structurées. Il y a des psychothérapies plus au long cours pour changer, je vous dirais, plus les éléments un peu plus profonds chez la personne. Puis il y en a pour régler des symptômes. Effectivement, il peut y avoir des thérapies pour les troubles cognitifs, les troubles anxieux. Donc, thérapie cognitive, comportementale. Donc ça, c'est des thérapies plus structurées avec temps de séance puis des exercices entre séances. Ça, c'est un type de thérapie interpersonnelle qui va jouer beaucoup sur le monde relationnel de la personne, qui va défaire un peu des distorsions cognitives. Donc, il y a différentes écoles, mais il y a les approches un peu plus, la psychodynamique puis psychanalyse, donc c'est des choses qui demandent un peu plus de formation, mais qui est plus au long cours pour traiter des choses un peu plus à l'intérieur de la personne, ou plus sur une longue période. Donc, pour avoir accès aux psychothérapeutes, d'abord, il y a le bouche-à-oreille qui se fait beaucoup. Je pense que les gens qui veulent se chercher un psychologue vont voir un peu dans leur environnement de travail. Ils savent que Geneviève a eu un problème il y a 3 ans, elle est allée en psychothérapie. Bref, il y a ce truc-là qui va marcher. Les médecins de famille aussi ont leur nom favori, là. Ont leur banque de psychothérapeutes. Il peut y avoir effectivement des professionnels qui connaissent... dans ces bureaux-là.
Il y a les services d'aide aux employés aussi, là, au sein des entreprises qui...
Tout à fait, je les oubliais. Eux autres, ouais. Effectivement, des fois, c'est le premier recours. Puis c'est excellent parce qu'ils vont tenter une approche là, brève, mais pour régler le problème. Mais si jamais on ne trouve rien de tout ça, Internet est excellent aussi. Je ne veux pas massacrer leur corporation, mais des psychologues, j'ai oublié le nom de... Mais
on va mettre toutes les ressources, dans le fond, là, tous les liens des ressources possibles pour des personnes qui auraient besoin d'aide ou qui voudraient outiller d'autres personnes. À la fin du balado, on va mettre vraiment là, toutes les adresses web là, pour que vous puissiez avoir les informations.
Les corporations professionnelles, des psychologues aussi, vont donner cette information-là. Ils vont donner, dans votre région, voici quels sont les psychologues qui sont disponibles, voici quelles sont leurs approches. Puis là, avec leurs approches, tu peux aller vérifier si ça te correspond. Puis il y a des choses un peu plus précises qui vont dire excellent dans les troubles anxieux, dans les troubles relationnels, dans les troubles conjugaux, bref. Il y a de la thérapie de groupe qui existe aussi. Mm-hmm. Dans le CLSC, c'est une excellente ressource parce que la très grande majorité des problèmes de santé mentale vont passer par le CLSC. Mm-hmm. Donc, c'est une excellente ressource également lorsqu'on ne sait pas trop. Donc, bref, on peut trouver les organismes communautaires aussi. Et donc, tout le monde est au fait de ces dimensions-là. Des ressources, il y en a comme tu dis, Annabelle, les psychologues actuellement, notamment avec la pandémie, je pense qu'ils ont passé des listes d'attente de 6 mois à 2 ans parce que la demande a été très grande. Mais il y a ce problème-là. Il y a aussi le problème, effectivement, que ça peut coûter des sous. Il y a une démarche avec le gouvernement pour qu'ils soient un peu rémunérés comme nous, les médecins. Donc, rémunéré par le public. Ça serait tout à fait génial. Je ne sais pas si ça va aboutir, mais ça s'en vient. Bref, il y a moyen de trouver un psychothérapeute. Le réseau public des CLSC offre aussi. Il y a des psychologues en CLSC, oui. Puis des travailleurs sociaux, puis des ergothérapeutes qui ont aussi des formations comme psychothérapeute. Parce que les psychothérapeutes, c'est plus large que psychologue.
Une dernière question avant ma dernière question. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on a toujours la même dernière question qu'on pose à nos intervenants. Est-ce que tout le monde peut développer des troubles dépressifs? Est-ce qu'il y en a qui sont plus à risque d'en développer dès leur naissance? C'est une prédisposition, les troubles dépressifs? Est-ce qu'il y en a qui sont à l'abri de ça? Ça me fascine, cette question-là.
En fait, on va parler des facteurs de risque. Femmes, jeunes, qui aussi a déjà peut-être un état dépressif, qui a un milieu familial qui a été dysfonctionnel, donc qui a vécu des choses difficiles, qui consomme de l'alcool, de la drogue, qui a eu traumatisme crânien, qui est isolé socialement, ça joue. Renverser tout ça, quand tu es une personne qui a eu une assez bonne éducation, juste une assez bonne, pas besoin d'être extraordinaire, juste une assez bonne éducation.
Milieu stable.
Puis un milieu social,
oui.
qui travaille aussi, le travail est important. Le travail est stabilisateur aussi, qui est capable de parler autour d'elle, de chercher des ressources, qui est en relation, OK? Il y a plus de dépression chez les célibataires, les gens séparés, que chez les gens qui sont en couple. Okay? Le couple, c'est un bon mécanisme aussi. Il y a aussi des enfants. Avoir des enfants aussi, c'est très nourrissant. C'est très exigeant, vous l'avez dit. C'est quasiment un trouble d'adaptation les premières semaines.
Il faut savoir s'adapter. Bébé. On les développe, nos habiletés d'adaptation, en tout cas.
C'est ça. Mais c'est un peu tous les facteurs. Fait que mélanger tout ça, donc j'imagine que pour le reste, donc, c'est quand même... Mais il y a quand même des troubles... Il faut parler... Les troubles dépressifs, c'est quand même très fréquent. Hein.
Oui.
C'est quand même 12%... 12% de la population vont faire un état dépressif dans leur vie. Fait que c'est quand même très fréquent, là.
Si on veut terminer cet épisode-là sur une note positive, est-ce que les gens s'en sortent? Ben, je pense que oui. Sur quelle mesure?
Ben, c'est surtout ça. Là.
Oui,
c'est pas exceptionnel, la note positive. C'est que, d'ailleurs, dans notre titre, c'est qu'on s'en sort. Le titre des mots-clés de la présentation, c'est que, dans le fond, c'est que la durée est limitée. On va parler de 9 à 10 mois. Ça, c'est la durée moyenne. Mais globalement, la très grande majorité, en fait, c'est les 2/3 vont sortir de cet état dépressif complètement. Il y a 1/3 qui vont rester avec des symptômes au long cours à lesquels ils devront faire attention. Mais les 2/3 vont s'en sortir. Le problème, c'est de générer cet espoir-là chez les gens pour lesquels ça ne colle pas. Alors ça, c'est toute la relation qui est importante. Et ce que vous faites, là, une émission comme ça qui démystifie ce truc-là, là, ça va générer de l'espoir.
Si vous aviez à prendre rendez-vous, parce que le balado s'intitule « Santé sans rendez-vous », si vous aviez à prendre rendez-vous avec n'importe qui ou même n'importe quoi dans votre vie, que ce soit une personne vivante, une personne fictive, une personne qui est décédée maintenant, ce serait qui et pourquoi, Annabelle?
Oui, mais Comme vous avez dit, là, c'était une question que je me posais dans les derniers jours. Puis finalement, j'ai eu un éclair de génie hier en lisant un article sur Irma Levasseur. C'est la première femme québécoise qui a été médecin. Mais comme on me dit à l'oreille que ça a déjà été nommé dans les dernières semaines, j'avais quand même un plan B. Une autre personne avec qui j'aimerais avoir rendez-vous, c'est Emma Watson, qui a joué dans les films Harry Potter, dont j'étais une très grande fan
dans l'enfance. Hermione, pour ne pas la nommer.
C'était Hermione. Exactement, puis je m'identifiais beaucoup à ce personnage-là qui était un peu je-sais-tout, qui aimait ça apprendre. Puis ce que je trouve fascinant, c'est que même après avoir fait des millions de dollars avec la saga Harry Potter, elle est quand même allée s'instruire à Brown, puis maintenant c'est une grande activiste pour les droits des femmes. Je trouve ça vraiment impressionnant.
Génial.
Et Dr. Villeneuve?
Oui, ben c'est ça. J'avais que vous posiez la question. Il y en a une qui a popé tout de suite dans ma tête. J'ai essayé de le chasser, mais ça a repopé. J'ai dit non, je vais essayer de sortir quelque chose d'autre. Non, ça a repopé, alors que je le conserve. Donc, c'est ma mère. C'est ça. Dans le fond, je viens d'avoir un petit.
Pas de problème.
OK. Donc, oui, c'est ma mère qui est décédée il y a très peu de temps, qui est une dame extraordinaire. Mais
sympathie.
Oui. Ouais. Ça fait 3 ans, mais je suis dans le. C'est un deuil qui va bien. Mais j'aurais aimé présenter mon petit-fils. Là.
Dr. Villeneuve, je vous dis un immense merci. Annabelle Papillon également, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous rencontrer pour cet autre épisode du Balado Santé sans rendez-vous.
Ça nous a fait plaisir.
Merci beaucoup.